Cette émission vous est présentée par le laboratoire TerraScience, expert en compléments nutritionnels et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Bonjour Jacques.
Bonjour Fabrice.
Le docteur Jacques Bassier sur Nutri Radio, chaque jeudi 10h-11h pour en route vers la physionutrition, c'est l'objectif. Avec tous ces conseils, je pense que vous allez aller beaucoup mieux et déjà être dans l'anticipation. C'est le cas si vous réécoutez les podcasts depuis le début. Vous avez normalement quelques pistes d'amélioration sur la prise en charge globale de votre santé avec des habitudes alimentaires. Bon, après, tous les messages sur Nutri Radio vont un peu dans ce sens-là, mais voilà, l'union fait la force, comme on dit, et la répétition aussi, ça c'est important. On a parlé avec vous la semaine dernière, docteur, du burn-in. Vous savez, cet épuisement qui arrive, le burn-in qui, on va dire, l'étape précédente, le burn-out, et quand on y est, épuisement et burn-out. On va également parler de ce rôle central du cortisol. On l'a vu la semaine dernière dans son impact sur le burn-in, mais pas que. C'est quoi hormonalement l'épuisement et donc le burn-out, docteur ?
Ben, ça suit, comme on l'a dit la semaine dernière, ça suit le burn-in, c'est-à-dire qu'après cette phase de hyper, où je suis à 100 à l'heure, tout fonctionne trop, ben mon corps a des limites et va commencer à s'épuiser, à rentrer d'abord en résistance. Il y a des résistances au cortisol, des résistances à la growth hormone, l'hormone de croissance. Ça veut dire que le corps va essayer de juguler un peu le trop-plein, et petit à petit, si rien ne change, ben je vais m'épuiser, je vais épuiser mes sécrétions cortisolées. Donc on peut faire des hypocorticines fonctionnelles, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cortisol très 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 haut, on va l'avoir très 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 bas. Petit à petit, on n'en fait pas autant que ce qu'il faudrait, et donc là l'épuisement il est constant tout autour de au long de la journée, et de plus en plus. C'est-à-dire je me lève fatigué, je dois faire un truc, je suis fatigué, et j'arrête, je suis toujours fatigué. Donc ça c'est un cortisol qui est plutôt bas. Et le corollaire de ça, c'est que ben, tout est bas. Le problème, il est là. On avait parlé de la neurotransmission avec la sérotonine qui montait, la dopamine qui montait, et qui, au fur et à mesure du burn-in, commençait à descendre. Ben là, quand on se retrouve en phase d'épuisement, nos voies sérotoninergiques dans le cerveau, nos voies dopaminergiques sont beaucoup plus basses, c'est-à-dire moins stimulées que ce qu'il faudrait. Donc, toutes les fonctions qui en découlent, tout va pas bien. C'est-à-dire que je deviens là aussi, au-delà de la fatigue, je commence à perdre mes envies. On appelle ça perdre le plaisir et les envies. On appelle ça l'anhédonie. Donc, je commence à avoir de l'anhédonie et de la tristesse. Et quand on parle d'anhédonie et de tristesse, ben, c'est souvent l'équivalence d'une dépression. Donc, du coup, un épuisement peut se nourrir d'une vraie dépression, pour lesquels on peut prendre malheureusement des antidépresseurs, mais c'est pas suffisant souvent, parce que le fondement du problème n'est pas là. C'est pourquoi j'ai été épuisé, comment je suis arrivé là. Et au-delà de ça, l'immunité, on va avoir une suppression de l'immunité beaucoup plus forte encore. C'est un immunosuppresseur avec là une vraie inflammation chronique. Le corps va parler, va être enflammé. Le cerveau, il va y avoir de la neuroinflammation qui va nourrir justement l'état dépressif possiblement. Et du coup, au niveau de l'immunité, ces phases d'épuisement, comme déjà ces phases de burn-in, si votre immunité n'est pas compétente, ben il y a plein de choses qui peuvent se passer. On sait aujourd'hui que ça fait le lit, par exemple, d'expression d'un cancer, parce que notre immunité n'est plus capable de combattre un cancer naissant, alors qu'on est théoriquement capable de le faire la plupart du temps. Dans ces phases-là, ben, vous avez une défense, des défenses moins compétentes, et malheureusement, des cellules cancéreuses, par exemple, peuvent prendre, c'est l'occasion de se développer plus sereinement. Donc, vous voyez, ça va quand même loin. C'est pareil pour l'infectieux, c'est pour plein de choses au niveau immunitaire. On tolère des choses qu'on ne devrait pas, et on ne tolère pas certains trucs qu'on devrait pouvoir tolérer. Donc, du coup, on met à mal plein de facettes de l'immunité. Voilà, tout ça, c'est un peu cette phase d'épuisement qui peut, justement, malheureusement, souvent, on pense qu'il n'y a qu'une dépression, alors qu'il y a vraiment un épuisement aussi hormonal. Et c'est vrai qu'on ne nous a pas trop appris à accompagner ces hormones faiblardes lors d'une dépression par épuisement, alors que, bien sûr, quand on voit les niveaux de cortisol, c'est ce qu'il faudrait faire certainement.
Ça c'est intéressant parce que si on dit que si on accompagne justement cet épuisement hormonal, voilà, on va être capable encore d'anticiper beaucoup de choses et on l'a pas pris en compte. Là, ça commence à venir. Quand je dis ça commence, ça y est.
C'est exactement ça. C'est la vision globale. Ce corps, c'est un entier et il faut aussi pas être se focaliser sur un truc. Le moral égale donc antidépresseur. Là, on joue sur la neurotransmission, mais il y a de l'inflammation dans le cerveau. Il y a un cortisol trop élevé ou plus efficace du tout quand il est trop bas. Et donc, à un moment donné, tout ça, il faut essayer de le rééquilibrer aussi. Et c'est pas que avec un antidépresseur qu'on va le faire. Si on adjoint à l'antidépresseur ou à des plantes à visée cérébrale d'autres stratégies, certainement, on sortira plus rapidement du trou avec, encore une fois, l'hygiène de vie derrière qui doit se modifier ou la problématique doit être améliorée, bien sûr.
Et comme l'a dit le docteur Jacques Bassier, en complément de votre traitement, donc on rappelle que ces informations ne se substituent pas ni à un avis médical, ni à un traitement. Et vous avez bien fait de dire, oui, en complément, pour aller récupérer plus rapidement. La semaine dernière, on a évoqué ce qui se passait quand il y avait trop de cortisol dans le corps. Que se passe-t-il exactement? Comment ça se caractérise et ça se concrétise? Et bien, dans un instant, vous allez nous expliquer ce qui se passe quand il n'y en a pas assez. C'est juste après ceci sur Nutri Radio.
Le laboratoire TerraScience, conseillé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans, conjugue rigueur scientifique et innovation pour vous proposer des compléments nutritionnels naturels et performant. Choisissez TerraScience pour une santé optimale avec la garantie d'une expertise et d'une qualité inégalée. TerraScience, vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Le docteur Jacques Bassier sur Nutri Radio pour nous parler de l'épuisement, du burn-out. Alors, vous avez compris un peu la mécanique du docteur. La première, il nous explique bien ce que c'est. Il nous dit... C'est attention, voilà, comme ça on prête l'oreille, on dit hop 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 hop, ça me regarde tout ça, ça me concerne, et après il arrive avec les solutions, bim et bam, et ça distribue, et on finit cette émission, on est remonté à bloc, et surtout on est beaucoup plus vigilant sur cette santé, on en a besoin, la santé, prévention. Donc, on parle de cet épuisement et du burn-out. Je vous l'ai dit juste avant la pause, chers auditeurs, la semaine dernière on avait évoqué ce qui se passait dans le corps quand il y avait trop de cortisol, et maintenant, Jacques, expliquez-nous un peu ce qui se passe quand il n'y a pas assez de cortisol.
Tout le contraire de la semaine
Merci
dernière.
Merci beaucoup.
C'est-à-dire, voilà, non, au-delà de ça,
attention,
des symptômes cliniques.
Attention, parce que sinon, je ressens l'arme.
Voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Par exemple, on est tellement fatigué, on est tout pâle, on a une peau fragile, les lèvres aussi qui se fragilisent, et donc on n'arrive même plus à jouer de l'harmonica quand c'est comme ça. Non. Plus sérieusement, la fatigue en premier lieu, bien sûr, le manque de cortisol, on n'a pas cette vigilance, on n'a plus l'énergie. C'est un mobilisateur de l'énergie, le cortisol. Et ben voilà, on n'est plus capable de mobiliser le glucose, les corps gras dont on a besoin. On a une fatigue constante. Je fais un effort, j'arrive à le faire, je m'arrête, je suis encore plus fatigué, c'est une catastrophe. Donc il y a une pâleur aussi, il y a souvent un teint un peu plus pâle, une peau plus fragile, plus fine. On est passé par l'hypercorticisme qui nous a abîmé la peau, abîmé les os, abîmé les muscles. Et là, on se retrouve avec une peau très fragile, très réactive quand il n'y a plus de cortisol. Le cortisol, c'est un anti-inflammatoire quand on en a besoin. Si on a une agression, on va sécréter du cortisol pour participer à la lutte et à la réparation. Et bien là, pareil, il n'y en a plus, je ne répare pas bien, ma peau est fragile. J'ai des ecchymoses, au lieu de bien coaguler, je coagule un petit peu moins bien, donc je prends un coup, j'ai des grosses ecchymoses qui ont du mal à partir. Une tension plutôt basse, après avoir eu une tension élevée lors du burn-in, dans la phase d'épuisement, ma tension, mon cortisol qui fait monter la tension, il n'y en a plus, ça fait baisser la tension, donc c'est des gens qui ont une tension plutôt basse que d'habitude. Au niveau immunitaire, on attrape tout ce qui passe. Le moins de virus, vous y avez droit. Là, c'est vous qui prenez tout et en premier, et ça dure longtemps. Les batteries sont vides. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on n'arrive pas à recharger. Je m'arrête. Je m'arrête le week-end. Mais mon lundi, je suis toujours autant fatigué. Quand je suis épuisé, c'est pas deux jours qui vont recharger les batteries. Et moralement, bien sûr, du coup, on n'est pas très bien. On a aussi le cerveau qui fonctionne au ralenti. Ce cortisol, la vigilance, on la perd. Donc la mémoire, c'est encore pire. La concentration, l'attention, voilà, c'est des gens qui vous disent « je suis épuisé ». Le mot « dit », c'est un syndrome d'épuisement, les gens l'utilisent, c'est pas « je suis fatigué », c'est « je suis épuisé ». Et derrière tout ça, là où on va parler du burn-out, c'est que possiblement tous ces symptômes-là, on les mêle à un vrai burn-out, qui est autre chose que simplement de l'épuisement. Le burn-out, on appelle ça la dépression souriante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a rien de plus vicieux qu'un burn-out, parce que c'est des gens qui sont plutôt… entreprenants, perfectionnistes, sérieux. Donc, dans le boulot, c'est gens qui sont toujours essayés de faire du mieux possible. Et à un moment donné, par des dysfonctionnements d'entreprise, par exemple, des non-reconnaissances, ben, ils perdent un peu le moral, la foi, et ils vont arriver à aller jusqu'à un burn-out. Mais pendant longtemps, c'est des gens qui donnent le change, alors qu'ils sont fatigués, épuisés, ne le montrent pas. C'est pour ça qu'on les appelle souvent des dépressions souriantes, ces burn-out. Et c'est là où il y a un danger. Pour le médecin, c'est très difficile, quand les gens font comme si, de comprendre un petit peu les symptômes qu'il y a derrière. Donc, un vrai burn-out, c'est de l'épuisement, mais avec, pendant longtemps, des gens qui donnent le change comme si de rien n'était. Tout allait bien.
Donc il faut être particulièrement...
T'as arrêté de jouer de l'harmonica, d'un coup.
Eh oui, non, mais il faut être particulièrement gênant. Et puis, quand on est... Est-ce que quand on est acteur, on va dire, de cette dépression souriante, est-ce qu'on peut tirer la sonnette d'alarme ou c'est quelqu'un autour de nous qui doit le faire?
Ben, ceux autour de vous, ils ne le voient pas tout le temps, justement. Le problème est là, on donne tellement bien le change qu'à part des notions de fatigue ou quoi, c'est des gens qui sourient, qui ne sont pas d'une allure dépressive. Donc du coup, pendant longtemps, ils tiennent jusqu'au moment où ils craquent. Et c'est ça que le danger, les médecins du travail le savent bien. Quand dans une entreprise, il y a un burn-out qui passe à l'acte de suicide et qui se... On l'a vu il y a quelques années chez Orange, par exemple, il y avait des restructurations, il y avait des dysfonctionnements internes. Ben, un burn-out avec un gars qui s'est suicidé a entraîné d'autres personnes qui sont passées à l'acte aussi. Pourquoi? Ben, parce que les autres se sont rendus compte qu'ils étaient dans le même état que lui et que la seule solution qu'il avait trouvée, c'était mettre fin à ses jours parce que c'était trop douloureux et d'autres l'ont fait. Donc, c'est très contagieux. C'est-à-dire qu'un burn-out, ça veut dire que possiblement d'autres sont dans un burn-out dans une entreprise et les médecins du travail sont aujourd'hui formés et devraient l'être en tout cas pour être alertés à s'il y en a un avec une tentative ou un suicide, attention, regardons les autres aussi. Parce que c'est des dysfonctionnements d'entreprise bien souvent qui font naître un peu ces situations-là.
Alors c'est quoi le burn-out? Parce que là on parlait de dépression souriante, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des symptômes et
oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'au départ, le burn-out, et on est devant une situation, et théoriquement, devant une situation, on amène une réponse. Voilà. Alors, quand on est adapté, une réponse, eh bien, par rapport à un problème, on va se blinder, ou on va moins s'impliquer, on va être plus réaliste. Voilà, on va trouver des solutions en interne, on va trouver des ressources en interne qui vont faire que d'une situation, ben voilà, je vais dire, bon, c'est pas ma faute, alors je me blinde, alors, du coup, je prends un peu de recul, je m'implique pas trop. Mais il y a des gens qui savent pas le faire, ça. Les perfectionnistes, les trucs, ils vont continuer à s'impliquer, ils vont pas savoir se blinder, ils vont pas être très réalistes devant le regard sur cette situation-là. Alors, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un processus qui s'installe dans cette situation qui perdure avec un épuisement émotionnel. Ça vous flingue au niveau cérébral, au niveau émotionnel, c'est épuisant. Il y a un côté déshumanisation, des relations, un côté démotivation qui va s'installer. Et là, c'est des symptômes qui, dans l'entourage ou professionnel ou familial, quand les gens qui ont toujours été impliqués commencent à dire « Oh, je commence à l'avoir marre en rentrant à la maison. Oh, ils m'emmerdent tous. Il y a le problème, je m'en fous. C'est leur problème, c'est pas le mien. » Alors qu'ils n'ont jamais fonctionné comme ça. C'est un processus de burn-out qui se met en place, de démotivation, un certain cynisme devant. Chez le médecin, ça existe souvent. Quand le médecin est burn-outé, à un moment donné, le médecin va se dire « Bon, je m'en fous de la situation du mec qui est en face de moi. Je suis tellement fatigué, il m'emmerde avec ses plaintes. » Il y a un certain cynisme par rapport à la situation où de médecin traitant, il devient observateur qui s'en fout un petit peu. Et là c'est dangereux parce qu'on a atteint un certain niveau déjà dans le burn-out, où on a des échelles de burn-out qui fait que là, on est vraiment dans une vraie pathologie. Il y a ce processus de désillusion qui s'installe et après, on va vers la vraie souffrance. Tout ça fait tellement souffrir, c'est tellement à l'opposé que ce que j'ai pu être, qu'il y a une vraie souffrance existentielle qui peut justement malheureusement amener jusqu'à des suicides. Avec toujours pendant très longtemps ce sourire environnant, comme si de rien n'était. Or, quand on arrive à la désillusion, à la démotivation, à la déshumanisation et l'épuisement émotionnel, je suis à sec d'émotions, je me fous de tout, là c'est dangereux. Là je suis arrivé à un niveau déjà assez grave. Et normalement, là, il faut arrêter, il faut sortir de la situation et prendre en charge tout ça.
Très bien, merci beaucoup. On se dit là qu'il y a quand même pas mal de médecins qui sont peut-être en burn-out, là.
Oui, c'est tout, toutes les professions où il y a beaucoup de sollicitations, le médecin, bien souvent, il fait ce qu'il peut, il peut pas tout faire, c'est pas Dieu sur terre, donc il y a aussi des difficultés quand on a des patients qui décèdent, quand vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui au bout d'un moment sont fatigants moralement aussi, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait on dit qu'il faut qu'il y ait de l'empathie, mais pas trop d'empathie non plus, parce que sinon aussi, après, on se fait bouffer de l'intérieur. On vit l'émotion avec les gens, et ça multiplié par X dans la journée, c'est compliqué.
Oui,
donc, il faut faire du sport à côté, il faut faire plein de choses à côté pour essayer de rester en équilibre.
Et tiens, d'ailleurs, petite question qui n'est pas forcément liée à cette émission, mais est-ce que les médecins qui, effectivement, tous ces professionnels de santé, et en particulier donc les médecins qui sont exposés toute la journée à des gens malades, pas bien, dépressifs, etc. etc. Est-ce qu'il faut pas être dans l'empathie ? En même temps, quand on s'en fout, c'est qu'on est trop détaché. Est-ce que les médecins sont suivis psychologiquement pour justement aller vider ? Non, pas du tout.
Non, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que le médecin, souvent, il est seul dans son coin, et donc il fait comme il peut, il est dans son hygiène de vie. Donc, il est dans son fonctionnement dans lequel il a pu mettre de l'hygiène de vie, il a ses petits jardins secrets, il a intérêt à les garder, parce que c'est extrêmement compliqué. S'il est dans l'hyper-empathie, il prend toutes les problématiques de l'humanité, et ça devient compliqué à un moment donné. S'il est dans le trop des grands détachements, son métier de médecin, peut-être il ne fera pas aussi bien quand même. Donc, il faut trouver un juste milieu entre les deux. Mais on est des professions très exposées. Tous les soignants sont très exposés, mais il n'y a pas que les soignants. Hein. En entreprise, tous les gens qui ont contact avec les autres, ça peut être une caissière, comme ça peut être un contrôleur de la SNCF. Je suis désolé, mais il y en a qui se font agresser toute la journée. C'est difficile de prendre le recul aussi.
Hein. Des profs aussi. On pense aussi aux...
Les profs, c'est extrêmement compliqué, c'est difficile aujourd'hui. Moi, j'ai mon épouse qui est prof, elle me raconte des trucs. C'était un petit peu différent quand même il y a 20 ans. Ils étaient des fois plus soutenus par leur administration. Ils pouvaient mettre un élève dehors de la classe. Maintenant, ils ne peuvent plus mettre un élève dehors de la classe qui fout le bordel ou qui vous nargue ou qui vous insulte. C'est extrêmement compliqué. Donc, du coup, ils sont moins protégés. Donc, c'est vrai que c'est difficile. On a une société qui n'est pas plus agressive, mais qui est... Voilà.
Pas loin quand même.
Tout va vite, tout. Voilà.
Pas loin
et
quand
donc,
même.
Du coup, c'est ces expositions chroniques à ce genre de situation. Quand on n'a pas la satisfaction. Le médecin, il a une chance. C'est que quand les patients vous disent au docteur, vous faites tellement de bien, qu'on est récompensé. Bien souvent, par les patients eux-mêmes, on est récompensé de l'implication qu'on met quotidiennement. Il y a un retour patient gratifiant. C'est dès qu'il n'y a plus la gratification que là, on peut plus facilement glisser vers du burn-out.
Donc,
quand dans une entreprise, on n'est pas reconnu. Quand la caissière, personne ne lui sourit, personne ne lui donne un petit mot doux. Quoi. Voilà, c'est ça où, et quand il n'y a plus la reconnaissance, là, c'est beaucoup plus compliqué. Tant qu'on a une reconnaissance, on peut s'en sortir.
Et ça, c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à dire merci quand ça va mieux, c'est super. Des fois, on n'ose même pas parce qu'on ne veut pas déranger, ou on se dit, la personne, de toute façon, elle s'en fout, il ne se souvient même pas de moi, ou quelque part, ou machin. Alors que, merci, un petit bonjour à la caissière. Tout ça, ça fait partie. En tout cas, vous, médecin, par exemple, quand un patient vous donne son retour positif, vous êtes content ?
Ah, mais bien sûr.
Voilà,
moi, je peux faire ça au paiement. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment, on est gratifié. Parce que si au fond de soi, on fait ce métier-là, c'est que j'espère, ce qu'on appelle la vocation, c'est qu'on a envie d'aider les autres. Donc, si on a le retour comme quoi on a aidé, évidemment que c'est gratifiant, évidemment que ça nous enlève quelques fatigues et quelques moments et on peut repartir le lendemain parce qu'on a eu cette dose-là aussi. Bien sûr, c'est important. Et c'est valable pour tous les métiers.
Ah oui, non, mais vous
c'est
avez
valable
raison.
Pour tous les métiers.
Donc on va dire à tous ceux qui nous font du bien, qui nous aident, qui nous servent, qui nous soignent aujourd'hui, le défi et le petit challenge qu'on peut se mettre, c'est recommencer déjà à leur parler, à leur dire bonjour, merci beaucoup pour
bien
le
sûr.
Bien que vous nous apportez, ce petit sourire, et on voit ce que ça peut changer à notre échelle. Si ça peut empêcher quelqu'un qui est au bord peut-être d'aller un step plus loin de quelque chose de dépressif et du burn-out, autant le faire, et voilà, toute cette bonne énergie va emmener...
Quel que soit le métier, si vous recevez 10 sourires dans la journée avec 10 merci, quand vous étiez dans un moment de difficulté, ça va vous faire du bien. Donc c'est vrai que tu as entièrement raison, il faudrait se forcer un petit peu, on est content, on le dit, on sourit, on dit merci, on dit « ah tiens, vous m'avez fait du bien, oh, c'était bon, là je reviendrai ». Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça, et ça nous fait mieux vivre ensemble déjà, et mieux supporter l'autre et des moments de vie compliqués. Donc c'est vraiment très important, bien sûr.
Docteur, merci, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio.
Le docteur Jacques Bassier sur Nutri Radio, Objectif Physionutrition, c'est la dernière partie de cette émission. On parle du burn-out aujourd'hui, après avoir évoqué ce qu'était hormonalement l'épuisement et donc le burn-out, après avoir parlé de ce qui se passait quand il n'y avait pas assez de cortisol, après nous avoir expliqué ce qu'était le burn-out, maintenant, c'est là où on vous préfère, hein, on va pas vous le cacher, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce burn-out?
La semaine dernière, je t'avais renvoyé à la question, mais qu'est-ce que tu ferais? Je ne vais pas le faire cette fois-ci. Non, mais on est toujours pareil, là aussi, c'est essayer cette hygiène de vie. On commence déjà par notre quotidien, le rythme de sommeil, veiller à ne pas rester devant la télévision et épuiser à s'endormir devant la télé et plutôt aller au lit et se reposer et s'endormir dans les bras de Morphée, faire un peu d'activité physique, essayer de faire des coupures, bien manger régulièrement, un peu de tout et essayer de se faire plaisir avec ça aussi, ben, tout ça c'est bien sûr la base. Après malheureusement là on est tellement déjà fatigué ou quoi que nous ça nous remplit les consultations. Je suis fatigué, ben, manger, se reposer et faire du sport ça n'a pas suffi, et du coup les gens viennent nous voir. Or là, bon, vous avez compris qu'il y a deux aspects, il y a le cortisol qui a chuté et il y a le moral qui a chuté avec. Donc c'est les deux aspects sur lesquels les compléments nutritionnels vont pouvoir nous aider. Alors, pour booster le cortisol, on a toujours ces fameux adaptogènes, mais avec un particulièrement un peu comme le ginseng par exemple, il y a des composés dans le ginseng qu'on appelle les ginsenosides, certains particuliers à l'intérieur des ginsenosides qui ont une capacité qui contribue à notre résistance corporelle au stress et de même permettent de maintenir des capacités physiques et mentales en cas d'épuisement. Donc voilà, c'est un truc assez intéressant. Il y a aussi des plantes comme avec riches en polyphénols, de certains polyphénols, le cassis par exemple. Le cassis booste la CTH, là, qui elle-même va donc booster la fabrication du cortisol. Donc le cassis est intéressant. Il y a des aminoacides comme la tyrosine, qui est un précurseur de la dopamine, qui pourrait être aussi intéressant dans ces situations-là comme complément. Et il y a une petite plante merveilleuse qui s'appelle la réglisse, qui va vous faire un petit peu remonter la tension quand elle est trop basse, qui va stimuler là aussi la fabrication du cortisol en inhibant la conversion en cortisone qui est moins active. Donc ça inhibe le passage de cortisol vers cortisone, ça me fait garder mon cortisol. Et donc du coup, voilà, des petits mélanges de plantes comme ça, de réglisse, de ginseng, de cassis ou quoi, peuvent faire du bien pour booster le cortisol. Et après, il y a le côté moral. Alors, quand on a une vraie dépression, on a des graduations, on a des questionnaires de dépression, et quand je suis dans une dépression dite grave, souvent on nous dit c'est les médicaments allopathiques qui sont intéressants dans ces situations-là. On peut quand même tester au départ, si c'est pas trop important, quand c'est léger à modéré ou modéré et sévère entre les deux. Il y a des plantes qui ont montré leur vertu quand même, comme le millepertuis par exemple, riche en hypericine. Et ce millepertuis aux États-Unis, en Allemagne par exemple, est une des premières prescriptions dans un cas d'une dépression légère, modérée et légèrement sévère. Il y a le safran aussi qui peut être intéressant, qui va jouer sur la sérotonine principalement et qui va nous permettre donc de pouvoir aussi amender quelques symptômes de la dépression, de cette tristesse, de cette anhédonie. Il y a aussi de nouveau là la rhodiole qui peut être utilisée qu'un effet anxiolytique, antidépresseur. C'est un adaptogène aussi, mais dans ces situations, c'est intéressant. Après, comme vous avez vu qu'il y avait souvent de l'inflammation dans ces situations-là, il y a de la neuro-inflammation, et aujourd'hui on sait que le moral, la dépression, pour partie des dépressifs, il y a aussi de l'inflammation au niveau du cerveau. Ben, on a des petites plantes, une plante qui s'appelle Boswellia serrata, et le Boswellia a une action anti-inflammatoire sur différents axes de l'inflammation, comme les oméga-3 aussi qu'on pourrait rajouter, c'est tout à fait intéressant. Donc il y a plein de choses, les catéchines de thé vert aussi, les polyphénols de ce type-là sont tout à fait intéressants par leur côté antioxydant, anti-inflammatoire au niveau cérébral. On pourrait mettre aussi du bacopa, on pourrait parler du ginkgo, on pourrait parler plein de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on doit jouer sur l'axe dépression et sur l'axe booster du cortisol qui, dans cette situation d'épuisement ou de burn-out, sera tout à fait intéressante. Après, là aussi, comme tu disais tout à l'heure, attention, vous avez des médicaments, vous les prenez. Ben, il faut savoir aussi ne pas s'obstiner dans des complémentations et ne pas avoir d'amélioration. Ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose de plus fort. Et moi, il m'arrive de donner de l'hydrocortisone, c'est-à-dire vous n'avez pas assez de cortisol, mais il m'arrive, dans une phase vraiment d'épuisement absolu, de donner des comprimés d'hydrocortisone pendant quelques temps, de booster avec ce dont je vous ai parlé, le ginseng ou autre, par ailleurs. Mais en attendant, l'urgence, c'est sortir les gens de l'épuisement. Pareil pour la dépression, il y a des antidépresseurs qui sont absolument nécessaires dans certaines situations.
Oh là là, le docteur Jacques Bessier, on ne se lasse pas de vous écouter et rien que votre voix, ça nous fait du bien. Vous savez, ça nous apaise. Non, mais je vous le dis, on est bien.
Et oh, on vous écoute. Je reviendrai la semaine prochaine.
Ah oui, revenez. Vous savez quoi, vous êtes invité la semaine prochaine dans votre émission.
Ah, ben tiens, je pensais que c'était terminé, mais je suis ravi, tiens.
On se retrouve la semaine prochaine et cette émission, eh bien, c'est en podcast à partir de dimanche, 18h, sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Si vous voulez réagir, vous avez des questions, des observations, vous n'hésitez pas, rendez-vous sur NutriRadio.fr dans le formulaire de contact, vous précisez physionutrition, objectif physionutrition, docteur Jacques Bessier. Précisez hein, quand même, parce qu'on n'a qu'une seule adresse pour toutes les émissions, donc parfois c'est le pêle-mêle. Donc voilà, et on y répondra, peut-être pas dans les prochaines émissions, mais avant la fin de saison, on fera une émission spéciale questions-réponses avec le docteur Jacques Bessier. Merci docteur, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, avec grand plaisir.
Et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Objectif physio-nutrition. Jacques Bessier sur Nutri Radio.